Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On vous dit à tout de suite. Ben voilà, le générique prend fin. Donc, je vous rappelle que c'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes de Lyon. Et on va commencer.
Nous.
C'est vous, c'est nous, c'est moi.
C'est nous,
c'est tout le
c'est
monde
toi,
ici, dans le studio. On va commencer, donc, disais-je, par les annonces. Il y en a.
Voilà, oui, il y en a deux même pour ce soir. Il y en a sûrement d'autres à trouver sur le net, mais on en a sélectionné deux. La première, ça se passe demain soir, le 18 janvier à 19h30 à la MJC de Villeurbanne. Du coup, c'est une projection débat qui s'appelle « Demain l'usine », qui est un documentaire sur les Fralib et la Scopti. Vous vous souvenez souvent, hein, après 4 ans de lutte contre leur ancien employeur, la multinationale Unilever. Ceux qu'on appelle les Fralib, donc, se sont réappropriés leur usine et gèrent donc maintenant collectivement leur coopérative ouvrière, la Scopti. Donc ce petit documentaire a été tourné quelques mois après la relance de la production, donc c'est vraiment une plongée au cœur de la coopérative, et donc ça explique un petit peu voilà, comment chacun et chacune vit les jours après, d'après une si longue lutte et d'une si belle victoire, etc., etc. Ce sera en présence de Clara Tepper, donc, qui est la réalisatrice du documentaire, de Yves Baroni, qui est coopérateur de la Scopti, et de Cyril Kretschmar, qui fait partie d'Oxalis, qui est une coopérative d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Donc voilà, Scopti, voilà, on rappelle, enfin, ils ont toujours besoin d'aide, en tout cas, parce qu'ils avaient fait une souscription publique pour essayer de sauver, parce qu'ils avaient des problèmes, du coup, pour pouvoir bosser correctement. Il y a eu des centaines de milliers d'euros, je crois, 700 000 euros, je crois, qui ont été récoltés. Mais du coup, voilà, ça suffit juste à renflouer les caisses, et on espère que ça va partir pour de bon, et qu'ils vont pouvoir, du coup, continuer leur reprise de l'entreprise, de leur ancienne entreprise en Scope. Donc voilà, donc c'est donc ça se passe, donc la MJC Villeurbanne, c'est au 46 cours Jean Damido. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter demain 19h30. Je sais pas s'il y a un tarif ou pas, je l'ai pas sur l'annonce. Allez vérifier quand même peut-être avant de venir sans thune, si jamais c'est payant. Il me semble que c'est gratuit, parce que c'est pas indiqué là sur l'annonce. Et la deuxième annonce, je sais pas si vous voulez la faire, du coup, c'est par rapport au
rassemblement. Deuxième annonce, ben c'est encore pour des gens qui sont en lutte, hein. C'est un appel lyonnais cette fois. Donc, je dirais après Barcelone, après Bruxelles, après Londres. Donc cet appel lyonnais pour un soutien large, c'est aux salariés grévistes parisiens et parisiennes du nettoyage sur le chantier, je dirais, de l'hôtel Holiday Inn à la porte de Clichy, enfin de Clichy, c'est sur la commune de Clichy-la-Garenne, hein, Paris 18e, enfin ça se touche tout ça. Donc ils sont en grève, hein, je rappelle, depuis le 19 octobre et ça se termine pas.
Ça fait 83 jours.
83 jours, voilà. Donc ils font partie, ils sont salariés de la société Emera. Ils souhaitent, dans leurs revendications, être embauchés d'une manière définitive par le fameux hôtel Holiday Inn. Donc leurs revendications, ben, elles ne sont pas encore abouties. Après 88 jours, je m'excuse, hein, mais c'est 88 jours grévés. Donc le rendez-vous pour leur soutien à Lyon se passera devant l'hôtel Crown Plaza, c'est à 17h, c'est à Lyon bien sûr, 22 quai Charles de Gaulle, c'est près de la Cité Internationale, voilà, pour tout vous dire, avec évidemment leur soutien syndical, c'est la CNTSO et la CGT HPE, hôtel de prestige et économique, donc qui les soutiennent là-bas à Clichy, voilà, donc si on peut y aller faire un petit tour, ça sera que mieux.
Ah ouais,
ils font beaucoup de choses apparemment,
ah ouais, c'est
vraiment
la lutte de ce
moment, hein. Il y a eu des mobilisations, donc comme je le disais, à Barcelone, à Bruxelles, à Londres, hein, ils ont même fait le voyage pour aller voir un petit peu par là, expliquer un peu leur situation. Voilà, très important.
Si on attend tout à l'heure, j'ai un petit article, mais du coup on verra sur justement ces 88 jours donc, du coup, de grève à Holiday Inn, et les 140 et quelques maintenant à McDo aussi. Du coup on fera un petit point peut-être là-dessus tout à l'heure.
À Villefranche du Rouergue.
Tout à fait. Et comment ces grèves font pour durer aussi longtemps, qu'est-ce qu'il y a en solidarité de ces grèves, etc. etc. Donc voilà.
Pour Holiday Inn, enfin les grévistes, là, on a vraiment un gros placard sur Rébellion.
Ouais.
Donc on peut aller y voir. Moi, j'ai fait un petit extrait, hein, simplement que on en a parlé souvent aussi dans la rubrique lutte sociale, évidemment, sur Idées Noires, de même que pour les Fralibs, d'ailleurs, ouais, que pendant les 4 années de lutte. Hein, quand même, on a couvert cet événement, quoi, social. Voilà. Merci, Julien.
Oh putain. Et donc, oh là, on m'a dévoilé. On va enchaîner après les annonces sur le bilan du rassemblement de samedi en fin d'après-midi. Donc on vous rappelle, on était du coup à l'initiative d'un rassemblement unitaire du coup contre l'ouverture d'un nouveau local fasciste sur Lyon qui s'appelle le Pavillon Noir. Donc on va vous faire un petit résumé de tout ça. Donc le Pavillon Noir, donc c'est le nouveau local d'un nouveau groupuscule ou d'un mouvement qui se veut national maintenant qui s'appelle le Bastion Social, qui est géré concrètement par le GUD qui s'est mis en sommeil mais qui du coup continue à exister. Donc c'est ça qu'on appelle ça le GUD Bastion Social, pour pas oublier d'où vient ce mouvement là. Donc le Pavillon Noir existait déjà l'année dernière sur Lyon, du côté du quartier de Saint-Just dans le 5e arrondissement. Il avait fermé après du coup le passage de la commission hygiène et sécurité de la ville de Lyon, donc voilà, parce que du coup il y avait trop de travaux à faire je pense dedans pour le rendre accessible au public. Donc du coup on remercie la ville de Lyon, hein, qui ferme les locaux fascistes et nazis, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons techniques uniquement. Et donc, on le savait, il préparait, après avoir annoncé la fermeture de ce local-là au mois de décembre dernier, il préparait l'ouverture d'un nouveau local. Et donc, ça a été le cas, puisqu'il a été inauguré samedi dernier, donc le 13 janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement, donc du coup du Bastion Social, essaye de fédérer différents groupuscules. Donc c'est le cas notamment en Savoie, Haute-Savoie, avec du coup l'adhésion d'un groupe qui s'appelle Edelweiss, un petit groupe de néo-nazis, qui du coup a rejoint le Bastion Social et qui va aussi ouvrir un local. Il y a aussi la même chose à Strasbourg, puisqu'un local a ouvert début décembre, un local qui s'appelle l'Arcadia. Et donc dans ces villes-là, bah, la résistance s'organise, l'opposition aussi, et il y a des collectifs qui se créent pour lutter contre l'ouverture de ces locaux et en demander la fermeture. Donc c'est le cas à Lyon suite au rassemblement de samedi, hein, donc un rassemblement assez large au niveau des signataires, avec une trentaine d'assos, d'orgas et de partis politiques qui ont signé cet appel, un rassemblement qui avait été appelé en quelques jours seulement, 4-5 jours, voilà, une petite semaine même pas, voilà, pour mobiliser les troupes, et on était du coup entre 200 et 300 personnes devant l'hôtel de ville. Voilà, le lieu n'avait pas été choisi au hasard non plus, hein, voilà, c'était pour commencer aussi à mettre la pression sur la mairie de Lyon. Et donc voilà, donc c'était plutôt une réussite, vu qu'on a réussi quand même à mobiliser du monde pour ce rassemblement-là. Il y a eu pas mal de traits qui ont été diffusés aux passants et passants, donc forcément qui n'étaient pas au courant de l'ouverture locale juste de l'autre côté de la Saône. Et du coup, voilà, le rassemblement a été plutôt positif, donc ça fait suite un petit peu, ou ça fait écho à ce qui se passe par exemple à Strasbourg. Ce local donc est ouvert depuis un mois de plus, donc début décembre, il y avait déjà eu une manif là-bas, et aussi voilà, des tractages voilà, pour présenter quel était ce lieu, qui se présente comme un lieu associatif, alors que c'est un repère de néo-nazis, et du coup qui est derrière, etc. etc. Sur Strasbourg, ça commence à plutôt bien marcher, parce qu'en plus il y a voilà, des articles dans les médias de masse entre guillemets qui commencent à sortir voilà aussi là-bas, avec du coup des liens qui sont faits avec voilà le milieu néo-nazi, et notamment le local de Strasbourg, donc qui est ouvert par une association dont j'ai perdu le nom, parce que forcément ils annoncent pas ça à Bastion Social, mais par une autre assoce en parallèle. Et du coup on a appris voilà que le trésorier de cette assoce là, et ben c'est lui qui a été condamné à 6 mois ferme, il me semble, voilà, le soir de l'inauguration du local de Strasbourg, après une ratonnade, hein, voilà, enfin du coup voilà une chasse voilà à tout ce qui leur ressemble pas. Et donc ce gars-là maintenant est en prison, et c'est le trésorier de l'association, donc il y a des liens qui se font au niveau de Chambéry. Les liens aussi vont se faire à quelque chose qui va sortir bientôt, et et sûrement une mobilisation à venir pour l'inauguration du local là-bas. Et donc voilà, et pour nous, donc le local là qui se trouve, on va quand même donner l'adresse, hein, 73 quai Pierre 6 dans le 5e arrondissement, donc sur les quais de Saône. Entre du coup le pont de la Feuillée, il y a deux passerelles, voilà, vous allez par là-bas et vous tombez sur le local, enfin n'y allez pas non plus, enfin voilà, c'est juste pour vous indiquer où il est. Si vous connaissez du monde autour quand même pour prévenir un peu les gens. Du coup ce local-là, donc l'adresse, du coup on l'a rendu public samedi à midi. Voilà, ce qui a quand même bien énervé, je pense, nos amis les bêtes, parce qu'ils voulaient garder un peu secrète cette adresse le plus longtemps possible pour pouvoir le rendre un peu pérenne. Ben, c'est raté, parce que du coup, on peut commencer à mettre la pression. On a pu commencer à mettre la pression dès ce samedi par rapport à ça. Donc, ce local-là, c'est un rez-de-chaussée qui est loué. Donc voilà, donc faut aussi voilà faire un travail militant là-dessus. Et puis nous, on va continuer nos actions, voilà, avec ce collectif unitaire, voilà, sur des actions de base en direction des habitantes et des habitants, parce qu'on le répète, demander la fermeture d'un local fasciste, c'est pas du coup laisser les autorités publiques régler la question, mais c'est juste un moyen d'inclure le plus possible les premiers et les premières concernées, bah, c'est à savoir les habitants et les habitantes du quartier, et notamment de cette rue-là où se trouve le local. Donc voilà. Tac, je voulais dire autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Si, c'était ça. N'hésitez pas du coup à aller voir, on a une page réseau social Facebook donc, qui s'appelle Fermons le local fasciste, le pavillon noir. Il y en a aussi un blog dont vous pouvez trouver le lien sur la page Facebook qui s'appelle Contre le pavillon noir, pardon,
.wordpress.org.
Org, voilà, j'allais dire .com, mais c'est .org. Mais vous le trouvez facilement maintenant et vous allez voir. Il y a plein d'informations sur qu'est-ce que le bastion social et donc ses origines, les liens de ce mouvement avec le milieu néo-nazi. Voilà, vous verrez, il y a des photos qui sont assez explicites et des liens qui sont assez explicites sur ce blog. Les liens politiques aussi, que ce soit au niveau local, national et européen, notamment des liens avec le parti néo-nazi grec, Obdoré, et le mouvement fasciste Casapan en Italie. Donc allez voir, le blog va être complété petit à petit, il y a du matériel qui va être mis dessus. Voilà, le but c'est de mettre la pression pour obtenir le plus vite possible la fermeture de ce local-là. Et j'en profite parce qu'il y a quelques syndicats qui sont signataires du coup, qui sont dans ce collectif-là. On va essayer, donc il y a la FSU, il y a la CGT Vinatier, il y a la CGT Éducation, il y a Sud Éducation pour moi, mais ça risque de grossir un petit. Il y a la CGT Jeunes aussi, pardon, 69.
Solidaires étudiants aussi.
Et Solidaires étudiants étudiantes, ouais, exact. Voilà un petit texte trouvé sur Visa pour réexpliquer encore une fois qu'est-ce que c'est que l'extrême droite. Donc l'extrême droite, c'est notamment la fin du syndicalisme. Le syndicalisme est né donc d'un rapport de force entre salariés, donc dominés, et un patron dominant. Pour l'extrême droite, patrons et salariés ont des intérêts communs dans l'entreprise, mais aussi dans le soutien à l'État, au pays, à la nation, au dogme, à la religion et au chef. Certains groupes d'extrême droite amalgament leur refus de la mondialisation néolibérale, entre guillemets, et celui de l'existence de la lutte de classe. L'extrême droite divise donc les salariés et la population. Tout le discours repose sur un basique eux et nous. C'est le cas notamment du bastion social. Hein, un de leurs slogans, c'est les nôtres avant les autres. La désignation de boucs émissaires étrangers au groupe comme cause de déclin de l'unité du fonctionnement du groupe majoritaire, entre guillemets, on y retrouve le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme, etc., etc. Groupe contre groupe, alors que tout n'est pas si simple, l'extrême droite ne cherche qu'un bouc émissaire responsable de tout ce qui ne va pas. Un autre truc, l'extrême droite n'est pas anti-système, l'extrême droite réécrit une histoire du pays et ou de la nation fantasmée, d'où une propagande galopante complotiste, hein, avec des nouveaux mots, en tout cas sur les trucs, surtout sur les médias nous mentent, c'était mieux avant, etc., etc. Elle milite pour un repli de l'éducation et de l'enseignement selon des critères réactionnaires, on croit en des lois intangibles, un pays éternel, une religion, etc., etc. L'extrême droite n'est pas le premier parti des chômeurs et des précaires, c'est l'abstention, voilà, comme l'ont prouvé les différentes élections, et notamment les dernières. Son discours lorsqu'elle parle des précaires n'est que pour les opposer aux réfugiés et aux migrants et aux migrantes. Dans la réalité, les pratiques de l'extrême droite, c'est la fermeture du Secours Populaire comme à Hayange et à Hénin-Beaumont par exemple. Ces militantes sont absents et absentes du secteur associatif, solidaire et des actions humanitaires. L'extrême droite, c'est aussi le régime de la peur, une éloge du nationalisme dont découle naturellement une glorification des valeurs martiales de l'armée, une obsession de la sécurité nationale envers les ennemis extérieurs mais aussi intérieurs, d'où une obsession sur le sujet de la criminalité. Voilà, donc primauté de la police sur la justice, discours sécuritaire, mieux à même de faire la justice que les lois et les juges, etc., etc. L'extrême droite, c'est aussi le culte du chef. L'extrême droite est dirigée par un chef, ou une chef du coup, en tout cas pour le parti le plus gros en France. Celui-ci ou celle-ci sert, il et elle sait les désirs de son peuple, entre guillemets, puisqu'il représente le pays réel contre les élites. L'expression de pays réel est née en 1900 sous la plume de Charles Maurras, donc Action française, qu'on ne salue pas au passage. Suivant le degré de fanatisme de la population et l'idéologie du parti d'extrême droite, il mettra en place un style de gouvernement pouvant aller du type autoritaire à la pire dictature totalitaire. Donc voilà, ce petit Visa, on vous conseille d'aller voir, hein, mine de rien, si vous êtes syndiqué, victime, même si vous ne l'êtes pas, de faire le lien avec votre syndicat, du coup, avec ce groupement de syndicats. Ils ont pas mal d'écrits, de petits livrets qui sont assez intéressants. Voilà, sur l'extrême droite, on vous le conseille. Donc voilà pour cette petite page.
Très bien. Ok, et ben on va du coup enchaîner avec petite information, alors qui n'est pas exclusive, vu que c'est déjà passé sur les médias aujourd'hui, ouais. Qu'on en a parlé avant nous sur Lucanu Info, tout ça, mais bon, on renouvelle quand même pour notre unique public d'idées noires. Donc c'est l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a été annoncé juste aujourd'hui à midi. Donc du coup, moi je vais vous lire le communiqué commun du mouvement anti-aéroport, alors notamment basé avec la CIPA. Donc du coup, parce que à midi en fait le gouvernement a annoncé l'abandon du projet et voilà. Alors du coup, nous notons que la DUP ne sera officiellement pas prorogée parce que le projet sera définitivement nul et non avenu le 8 février. Donc c'est quelque chose ça a été annoncé aujourd'hui, mais bon, comme toutes les lois, les trucs comme ça, il y a quand même un petit délai. Donc il s'agit bien d'une victoire historique face à un projet d'aménagement destructeur. Celle-ci aura été possible grâce à un long mouvement aussi déterminé que divers. Donc nous voulons d'abord saluer chaleureusement aujourd'hui toutes celles et ceux qui se sont mobilisés contre ce projet d'aéroport au cours des 50 dernières années. En ce qui concerne l'avenir de la ZAD, donc zone à défendre, l'ensemble du mouvement réaffirme dès aujourd'hui, premièrement, la nécessité pour les paysans et paysannes et habitants et habitantes expropriés de pouvoir recouvrer pleinement leurs droits au plus vite. Deuxièmement, le refus de toute expulsion de celles et ceux qui sont venus habiter ces dernières années dans le bocage pour le défendre et qui souhaitent continuer à y vivre ainsi qu'à en prendre soin. Et troisièmement, une volonté de prise en charge à long terme des terres de la ZAD par le mouvement dans toute sa diversité, paysans, naturalistes, riverains, associations, anciens et nouveaux habitants. Pour le mettre en œuvre, nous aurons besoin d'une période de gel de la redistribution institutionnelle des terres. Dans le futur, ce territoire doit pouvoir rester un espace d'expérimentation sociale, environnementale et agricole. En ce qui concernera la question de la réouverture de la route D281, fermée par les pouvoirs publics en 2013, le mouvement s'engage à y répondre lui-même. La présence ou l'intervention policière ne ferait donc qu'envenimer la situation. Et nous allons par ailleurs, en cette journée mémorable, adresser un fort message de solidarité vis-à-vis d'autres luttes contre des grands projets destructeurs et pour la défense de territoires menacés. Nous appelons à converger largement le 10 février dans le bocage pour fêter l'abandon de l'aéroport et pour poursuivre la construction de l'avenir de la ZAD. Du coup, signé pour l'instant la CIPA, la coordination des opposants, Copain 44, Naturalistes en lutte, les habitants et habitantes de la ZAD. Donc voilà, sachant que le gouvernement a annoncé l'abandon du projet, mais que ils veulent quand même expulser voilà, encore les habitants.
Il a aussi annoncé à demander aux personnes qui sont du coup là-bas de partir avant le printemps. Autrement, il y aura expulsion. Donc, on va voir ce qui se passe d'ici là, comment la résistance elle s'organise, avec aussi les personnes qui vont récupérer du coup leurs terres, comment ça va se passer, etc., etc. Donc, on va suivre ça de près parce qu'on a vu pendant 2-3 mois là, ça va commencer aussi à s'organiser là-bas.
Oui, oui.
Enfin, ça continue à s'organiser.
Ça ne veut pas dire que le gouvernement lâchera l'affaire par rapport à tout ce qui se passe là-bas, vu que les luttes se sont construites quand même sur plusieurs années. Ça fait du long terme.
Ils vont pas vouloir laisser dire que c'est la ZAD qui a gagné, parce que du coup, voilà, ils trouveront d'autres arguments, ils essaieront en tout cas de la virer.
Tout à fait. Donc, voilà. On passe à la petite pause musicale, puisqu'il est temps.
Eh bien, soit.
Avec Michel Bernard, c'est ça?
J'ai choisi ce soir Michel Bernard qui va nous interpréter L'Ogre de Barbarie.
C'est un ogre de barbarie. Il sort de la forêt la nuit, se glisse dans vos chambres, pauvre petit. Il vient de contrées sauvages, mais ne craint pas les voyages. En trois pas, il est ici, pauvre petit. Nous voici comme des pommes au bord de sa bouche énorme. Il nous croque et puis s'enfuit, pauvre petit. C'est un loup, c'est un vampire, un qui tue comme il respire. La chair fraîche le ravit, pauvre petit. c'est le génie des Carpates. C'est Néron, c'est Cléopâtre, Napoléon, Roménie, pauvre petit. C'est le bourreau de Bagdad, le boucher de Stalingrad, Pinochet, Mussolini. Mais des ogres, nous en sommes, vaniteux petits bonshommes, cupides, jaloux, soumis, pauvres petits. En nous la guerre s'apprête, l'ange fait face à la bête, qui gagnera la partie, pauvres petits. Le carton passe et repasse, la chanson des guerres lasse, où toujours l'homme nourrit.
Voilà, voilà, donc c'était Michel Bernard, et vous êtes avec Idées Noires, donc sur le 102.2 de Radio Canut, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et on enchaîne avec les luttes sociales.
Avec des luttes sociales, c'était dans
le ouais, tu bon. Enchaînes.
Eh ben j'enchaîne, allez, c'est, si on peut dire, les enchaînés, ils sont là.
Ouais, ouais.
Eh oui. Petite rigolade.
Ah, mais ouais, ouais.
Alors, je vous emmène à Équeurdreville. Qui connaît Équeurdreville? J'ai pas l'impression que tout le monde est que. Non, mais c'est dans la Manche, dans le 50, en fait. Qui se cache sous ce nom illustre, inconnu, tout bonnement, c'est la Hague, dans la Manche, donc. Et le site Areva de retraitement des déchets nucléaires. Grève du 3 décembre, oui, parce que là, c'est un petit reliquat du mois de décembre, hein, j'ai oublié de préciser. Donc, c'était le 3 décembre, c'était le début d'une grève qui a été reconduite, donc le 21 décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un projet de la grande maison Areva pour la récupération des jours fériés et qui propose donc cette direction de les payer. Alors vu d'un mauvais œil par les concernés, c'est-à-dire les salariés d'Areva, qui pourraient être en fait cette action là de leur direction le doigt dans l'engrenage pour la remise en cause d'autres acquis. Pour la direction, c'est compétitif d'agir comme ça pour Areva. Selon l'intersyndicale, il y avait quand même 40% de grévistes et il y avait une AG qui avait été prévue donc le 401 dont je n'ai pas le résultat. Carrefour maintenant, donc l'enseigne, la grande marque Carrefour, c'est la direction qui se lance là ici encore dans ce n'est pas exagéré, des milliers de suppressions d'emplois. Alors une grande société qui fait des bénéfices et reçoit même des subsides en aide publique. Cela, je les tiens de la CGT, hein, ce sont des infos de la CGT. Les salariés ont réagi, du moins le 22-12 à Givors dans la région pour cette région lyonnaise pour une centaine d'employés lyonnais qui ont manifesté. Alors vaste plan d'économie puisque on compte 5000 emplois qui pourraient disparaître dans les mois qui viennent. Donc l'annonce sera faite définitive fin janvier et ça concerne donc les Carrefour Market de proximité, enfin etc. Donc toute la chaîne qui seront, alors je sais pas si j'ai bien noté là, qui seront probablement proposés en location-gérance, et on sait ce que ça veut dire en location-gérance. Il n'a qu'à voir les McDo par exemple, ce que ça donne après pour les salariés. Les manifestants et manifestantes ont donc ont reçu quand même les sympathies et soutien des usagères de Carrefour, je veux dire par là les clients et clientes bien sûr. À Tours maintenant, c'est un énième conflit chez Fidelia, qui est affilié au groupe Covea, une énième grève après 2004, 2010, 2016. Alors quelques dizaines de coléreux et de coléreuses, c'est tout à fait sympathique ce que je veux dire, bien sûr, c'est pour la bonne cause. Leur boulot, donc, c'est leur boulot, c'est collectionner les appels, puisque c'est un centre d'appel, il y a du taf, avec de moins en moins de monde pour le faire, ce taf. Des congés, donc, le résultat sont les congés refusés, une pression de la direction, évidemment, réorganisation aux frais des salariés, concurrence farouche, évidemment, cahier de doléances bien rempli, et que le nouveau Dirlo, directeur, a engourdi rapidement en rasant les murs. Donc on attend toujours des résultats de ce côté-là. À Tarbes maintenant, bah, c'est la guéguerre hein, qui concerne bah, les crèches publiques entre autres, ici gérées par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, dans un quartier qui en a plus que besoin de ces crèches, c'est le quartier La Baudière, un quartier de gens qui travaillent beaucoup, pour peu. La CAF a commandité une société d'audit du nom, joli nom, Babilou, qui en a déduit ben, de faire un grand ménage et a refilé donc au privé, et vite. Donc, sauf que Babilou est candidate précisément à la reprise donc, des crèches. Hein, pourquoi pas. Alors, pour accélérer le processus, eh bien, la CAF a licencié, dans un premier temps, bah, une employée. C'était le 21-12, avec un rassemblement de la CGT, organisé par la CGT et la CFDT. Il y avait 65% des grévistes qui étaient en soutien donc, de cette collègue de travail, et également en soutien des salariés de la Sécurité sociale. À Crédin, c'est dans le Morbihan, avec la direction de la société Rohan Viande Élaboration. Alors ça jette comme un titre, hein, comme une raison sociale ronflante, et qui jette cette société, ses salariés, comme de la bidoche avariée. 115 personnes qui pointeront à Pôle emploi à compter du mois de mars de cette année. Grève en décembre, déjà dans un premier temps. Alors que faire bah, d'autre que quand on... Qui plus est, la direction mégote sur les indemnités. 90 personnes en manifestation, opération escargot, etc. Finalement, eh bien, il y a eu quand même quelques avancées, des avancées sociales qui ont été obtenues, avec un reclassement sur d'autres usines bretonnes, des indemnités légales en sus des indemnités de mobilité externe, des indemnités de kilométrage également, une formation à la réadaptation. Là, je cite, hein, réadaptation, je pense que c'est d'où ça sort, ça. Et qualification, donc, la grève est donc, a donc cessé après tout ça, selon la CFDT qui drivait dans cette lutte. À Bordeaux, maintenant, c'était le 27 du 12, donc du décembre, hôpital Saint-André. Bonjour, l'hôpital Saint-André. Eh bien, c'était une grève aux urgences avec la CGT, Sud Santé et FO. Pour colmater un trou béant dans l'effectif et pour l'amélioration de leur mission, là aussi, encore une fois, je cite, des conditions de travail également à améliorer, des conditions de vie, dénoncer l'alternance jour et nuit et conforter la pérennisation des personnels contractuels. Les grévistes sont réquisitionnés, évidemment, comme dans tous ces cas-là. Comme il se doit, puisque c'est bien sûr la branche, santé. Pas la broche, la branche. Et puis pour terminer cette première page, je vais réouvrir la rubrique la carotte ou le bâton, ou alors si vous préférez marche ou crève. Alors je vous lis, évidemment, c'est la mairie qui est tenue par les Républicains, la mairie d'Argenteuil dans le 95. Alors en fait, je devrais dire, c'est pas la carotte ou le bâton, c'est l'asperge et le bâton, parce qu'à une époque, pour votre gouverne, hein, pour vos infos, la commune d'Argenteuil était très spécialisée dans la culture de l'asperge. Donc la mairie l'a fait, l'a mise en place, et je vais vous dire, c'est une prime d'assiduité à 500 euros à l'année qui sera, écoutez bien, diminuée de 25% pour chaque jour non travaillé. Alors au bout de 4 jours, au Canuche par exemple, et ben, hop, envolé la prime. Alors, pas de pitié, quel que soit le motif, hein, évidemment, hein, compris évidemment la grève. Hein, si vous faites grève, boum, la prime en l'air. Alors, c'est pas beau ça, hein, quand même. Alors, auparavant, le maire LR, donc je précise encore une fois, a pris soin de supprimer quand même des centaines de postes. Et puis, évidemment, ce qui va avec, hein, son corollaire, bah, c'est l'augmentation du temps de travail, voilà, pour les gens d'Argenteuil. Voilà, je voulais ouvrir cette rubrique... avec cette petite brève. Voilà, monsieur, dame.
On va continuer un peu dans les luttes, et plutôt sur le résultat d'une défaite l'année dernière par rapport à la loi travail, et une mesure de la loi travail qui était appelée la rupture conventionnelle collective. Vous en avez sûrement entendu parler, hein, parce que du coup, il y avait déjà deux entreprises avant la publication de fin décembre, hein, des décrets d'application de cette loi-là, qu'il y ait sous sa disposition, en tout cas, il y a le groupe PSA et l'enseigne Pimki, qui avait annoncé déjà vouloir y recourir à ces ruptures conventionnelles collectives. Donc voilà, vous rappelez un petit peu le principe de cette rupture conventionnelle collective, on en reviendra un peu tout à l'heure. C'est permettre de contourner des plans sociaux, de plans de sauvegarde à l'emploi, pardon. Ce petit article, que je vais vous résumer, est tiré du site Rapport de Force. On vous incite à aller lire un petit peu les articles là-bas. C'est un média libertaire qui traite notamment des luttes sociales. Donc Pimki, vous connaissez sûrement, mais c'est une entreprise du nord de la France, propriété de la famille Mulier, je sais pas comment on dit, qui a été la première à déclarer publiquement ses intentions. Donc ça a été révélé dans la presse le 22 décembre, mais ça avait été déjà annoncé aux représentants du personnel le 19 décembre lors d'un comité d'entreprise. Donc soit la veille de la promulgation des deux décrets d'application par le gouvernement, c'est quand même beau. Et PSA a fait de même en informant le 19 décembre les délégués syndicaux centraux de l'entreprise de l'ouverture de négociations sur la rupture conventionnelle collective. Donc qu'est-ce que c'est que cette rupture conventionnelle collective? Donc c'est une mesure surprise des ordonnances modifiant le code du travail, parce que elle n'était pas au départ dans la loi, elle a été rajoutée ensuite, et donc elle est exclusivement à l'initiative de l'employeur, ce qui facilite bien les choses, comme vous le pensez. Donc elle nécessite quand même la validation d'un accord paraffé par des syndicats représentant au moins 50% des salariés. Donc du coup chez Pimki, ça a foiré, parce que du coup il y avait déjà la CGT qui avait déjà fait part publiquement de son opposition et qui réclamait des reclassements dans le groupe. On rappelle quand même que l'enseigne de prêt-à-porter féminin là, donc c'est une des nombreuses marques détenues quand même par la famille Mulliez, qui est la quatrième fortune de France. Elle est propriétaire du groupe Auchan, mais aussi de Decathlon, de Kiabi et d'une cinquantaine d'autres marques. Donc l'association familiale Mulliez salarie quand même 500 000 personnes dans le monde pour un chiffre d'affaires avoisinant les 80 milliards d'euros. Pensez bien qu'avec 80 milliards, ils ne peuvent pas financer un plan de sauvegarde à l'emploi, reclasser les gens, leur offrir une prime digne de tout ça. Donc la CGT, premier syndicat d'entreprise, elle avait recueilli 27% des voix lors des élections professionnelles. Donc elle ne pouvait pas bloquer à elle seule le processus, parce qu'il faut du coup plus de 50% qui refuseraient de paraffer ça. Et heureusement, et du coup plutôt avec surprise, du coup la CFDT a refusé de signer ce truc-là. Donc ça montait déjà à 48% et ensuite c'est rajouté FO. Et je ne sais pas par contre pour la CFCGC, mais en tout cas ça a capoté. Et du coup, Pimki n'a pas pu faire la première rupture conventionnelle collective sous l'ère Macron. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Par contre, chez Peugeot, ça risque d'être un peu plus compliqué, parce que la direction est assez confiante là-dessus. Alors c'était pareil, c'était au mois de janvier, j'ai pas eu la fin mot de l'histoire si du coup 50% des syndicats avaient signé, parce que depuis le traumatisme du coup des anciens plans sociaux, on se rappelle la fermeture du site historique d'Aulnay en 2013, donc le constructeur a plutôt changé son fusil d'épaule. Il a mis en place des plans de départ volontaires dans le cadre de son dispositif d'adéquation des emplois et des compétences. Chaque année, ces plans ont été validés par la majorité des syndicats de l'entreprise, malgré la perte de 20 000 à 25 000 postes depuis 2012. Voilà. En 2018, la direction du groupe remplace ses plans de départ volontaires par la nouvelle disposition prévue par les ordonnances. Par rapport au pourcentage chez les syndiqués, la CGT ne pourra pas seule s'opposer parce qu'elle ne pèse que 20%. FO pèse 19%, la CFTC 13%, la CFDT aussi 13% et la CFECGC 19%. Donc ouais, il suffit qu'on arrive à 50% pour que ce soit validé. Si un accord est malheureusement conclu, la rupture conventionnelle collective est envoyée à la directe pour validation. L'antenne départementale du ministère du Travail a 15 jours pour vérifier la conformité de l'accord et de la procédure. Donc information des instances représentatives du personnel, donc les nouveaux CES, ces conseils économiques et sociaux qui remplacent les comités d'entreprise, et le CHSCT, représentatif des syndicats signataires, et présence des mesures obligatoires pour la mobilité externe. Donc on verra comment ça se passe. On a su ça de près, parce que si ça passe pour une entreprise, ça risque de passer pour d'autres derrière. Enfin, en tout cas, ils vont se gaver avec cette nouvelle loi qui a été pondue par Macron.
Oui, c'est en fait quelque chose qui existait depuis déjà un bon moment. Ça a toujours existé, plus ou moins, mais ça se faisait sous le manteau, sous la table.
Et ça se faisait individuellement, voilà.
Voilà, individuellement. Tandis que maintenant, ça se fait au grand jour. C'est tout bonnement. Et c'est tout.
Oh, tu as coupé la parole.
Du coup, je continue avec une petite nouvelle qui va ravir tous les habitants de notre chère ville du Sud. Donc voilà, ça se passe à Nice, du coup, grâce à notre cher Christian Estrosi. Donc à partir de maintenant, en fait, à peu près aujourd'hui, je ne sais pas actuellement.
Ce matin, je crois, c'est trop bien. C'est une super nouvelle.
Aujourd'hui, C'est le top. Donc voilà, donc à partir d'aujourd'hui à Nice, un citoyen peut devenir une caméra de surveillance, alors littéralement. Donc en fait, c'est grâce à une application qui est en test pour l'instant. Du coup, environ 2000 personnes la testent pour Christian Estrosi. Et en fait, ces 2000 personnes pourront filmer pendant à peu près 2 mois de test les incivilités, entre guillemets, attention, dont ils seront témoins dans une ville qui est quand même déjà surarmée de caméras de surveillance. Donc de la vidéosurveillance en veux-tu en voilà, donc la ville de Nice déjà surveillée par 1950 caméras, donc soit 27 caméras au kilomètre carré, va désormais être arpentée par des citoyens eux-mêmes équipés. Donc une application qui s'appelle Reportai, voilà, en anglais, leur permet depuis ce lundi, donc non c'était il y a 2 jours.
Il y a 2 jours, pardon.
De filmer lorsqu'ils sont témoins d'une incivilité, entre guillemets toujours, et de transmettre leur œuvre en direct au centre de vidéosurveillance de la police municipale. Donc, début de citation, vous êtes témoin d'une incivilité, nuisance sonore, tags, dépôt sauvage ou d'une situation critique, vol, agression, incendie, inondation. Par une simple pression sur le téléphone, l'application renvoie au centre de supervision urbain la vidéo en direct de l'incident en haute qualité. Attention, hein. Fin de citation, explique un communiqué du maire de Nice, donc Estrosi. En appelant, la personne est géolocalisée, précise son cabinet, contactée par Libération. Ainsi, les caméras de vidéosurveillance peuvent cibler la zone concernée. Pour le dire autrement, les caméras de la ville filment l'endroit où un citoyen filme. Et une patrouille peut être dépêchée sur place.
Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais voilà, non, si vous aimez drôle, la délation, cher ami niçois et niçoise, profitez-en.
Voilà, c'est ça.
Parti.
Et puis, enfermez-en votre chère mère.
Ouais, voilà. Moi, j'ai vu un petit extrait ce matin, du coup, là, d'un gars d'un comité de quartier. Il était très content de servir son quartier et donc la ville de Nice. Et donc, il s'amusait à filmer dès le matin. Il se faisait peut-être chier chez lui, je sais pas. Donc, il a filmé les scooters et les voitures qui étaient mal garées avec son petit smartphone, voilà, pour envoyer ça à la police. Il doit se rendre, actif. Il doit se penser actif, utile. Comme ça, c'est assez hallucinant. Ça se passe à Nice, c'est pas étonnant non plus que ça se passe là-bas, mais voilà. On espère que ça va surtout pas généraliser. Si ça se généralise, il faudrait que ce le soit, mais c'est déjà le cas parce qu'on a pas mal de vidéos sur Reddit quand même qui tournent sur les abus policiers et les violences policières. Ah, par contre, c'est très utile. On incite tous les Niçois et Niçoises à filmer toutes les violences policières de leur ville parce que du coup, il y a un petit rapport qui est sorti là aujourd'hui ou dans la semaine là sur, je crois, le nombre de morts dues à la police en 2017.
Tout à fait, on en reparlera plus tard.
Ah, c'est plus tard.
Ouais, on a un petit truc là pour la
super transition alors. Elle est morte alors.
Tout à fait. Ouais, merci, du coup, ce ne sera pas une vraie transition, mais on fera le lien. Donc voilà, super. Je fais tomber mon téléphone. Alors, du coup, pour continuer, citation. Pour l'instant, nous avons un panel de 2000 citoyens. Il est composé de 1000 agents de la ville de Nice et de la métropole, de membres de la réserve civile et citoyenne, de comités de quartier et du groupe voisins vigilants, entre guillemets. Donc, du coup, voisins vigilants, c'est des habitants qui, par secteur, assurent une surveillance passive. Fin de citation. Explique-t-on à la mairie. Au bout de 2 mois, si l'utilisation de l'application est jugée positive, elle sera généralisée à l'ensemble des habitants. Tout juste faudra-t-il remplir un formulaire de demande. Donc voilà, super. Alors,
Et puis on peut peut-être filmer des fausses agressions, des faux machins pour faire déplacer la police pour rien.
C'est ça.
Je sais pas si ça marche.
Donc du coup, citation de Christian Estrosi. Face aux défis que nous avons à relever, chacun d'entre nous doit devenir un citoyen engagé, acteur de sa propre sécurité et donc de la sécurité collective. Et les nouvelles technologies peuvent y contribuer, en rendant aujourd'hui possible ce qui hier relevait de la science-fiction, pourquoi s'en priver ? S'enthousiasme le maire de Nice. Donc super citation. Mais l'opposition socialiste, de son côté, est un peu plus sceptique. Donc du coup, elle dénonce, début de citation, une démarche contestable sur le fond et inadmissible sur la forme, qui ressemble à l'organisation d'un processus de délation généralisée. On voit que le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, ne se gêne pas d'expliquer à quel point c'est utile pour instaurer la délation dans toute la ville. Fin de citation. A également jugé Benjamin Zontag, cofondateur de l'association La Quadrature du Net, interrogé sur France Info. Donc voilà.
Puis on espère qu'après ils seront équipés de taser, comme ça ils pourront intervenir eux-mêmes du coup sur les lieux de l'incivilité, crever les pneus d'une voiture mal garée, enfin je sais pas, voilà, on peut tout inventer.
Pourquoi
après.
Pas les armes après,
c'est formidable.
Je sais pas, du coup, on constate un petit peu que Christian Estrosi, c'est un genre d'avant-garde de la surveillance ultra généralisée, ultra poussée, parce qu'après le truc de voisin vigilant, c'est quand même présent dans Dans pas mal de... Enfin, ouais, même dans tous les villages, en fait, il y a toujours un petit panneau jaune, là, avec l'œil bleu que vous voyez. Alors, on n'a pas toujours le temps de lire quand on passe en voiture. Moi, ça m'a pris 50 trajets, mais voilà, c'est ça, voisin vigilant, du coup, de dénoncer ce qui se passe, enfin, d'illégal, entre guillemets, du coup, dans la ville. Que ce soit dénoncer les migrants qui passent, dénoncer voilà, les quartiers où il y a des trucs, enfin, des petites infractions... jugé grave et qui pourrait donner du taf à la SVP qui fout rien de la journée, donc voilà. voilà, et ben du coup on enchaîne avec une petite musique pour se remonter le moral.
Allez, on va écouter encore une fois Michel Bernard qui nous interprète donc Depuis combien de temps marchons-nous.
Depuis combien de temps marchons-nous? Combien de pas bout à bout, de jour, de nuit qui se fondent? Depuis combien d'années rêvons-nous? La tête entre les genoux qui se cherche un nouveau monde. Perdu à la croisée des chemins, l'enfant qui nous tient la main connaît la prochaine escale.
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes, et on va enchaîner avec une deuxième page de lutte sociale.
Allons-y gaiement, je vais vous emmener cette fois à oui. C'est un long oui. C'est un long oui. Elle est bonne. Alors, long oui, c'est en Meurthe-et-Moselle, et on va parler de la maison de la petite enfance cette fois. C'était le 4 janvier, oui, parce que là maintenant, 2017 étant terminé. On a presque couvert tout ce qui était en 2017 comme lutte, hein, donc il faut passer à autre chose, donc à 2018. Et c'était le 4 janvier, avec une grève des personnels donc de cette maison de la petite enfance. Le nombre d'agents pour s'occuper des bambins n'y est pas. On appelle ça un taux d'encadrement, pas même le versement de la bonification indiciaire légale et la pérennisation aussi des contrats précaires. Donc tout ça, voilà, dans la corbeille. La mairie patronne a fait remplacer les grévistes par des intérimaires et nie les négociations. Le droit de grève a été donc jeté aux orties, d'autant que les intérims ne sont pas qualifiés, mais alors du tout pour ce genre de travail, selon la CGT Service Public. Il y a eu un rassemblement de soutien le 16 janvier, donc hier. Dans la même déveine, si j'ose le dire, c'était le 10 janvier avec un démarrage de la grève chez Axence et à Salindre, dans le Gard, à la maison Axence, donc société Axence, qui fait dans les catalyseurs pour la pétrochimie. 120 grévistes devant les portes du site pour évidemment une revendication pour une hausse sur les salaires, vu que leur travail gonfle le chiffre d'affaires et les dividendes de fait par les résultats résultats obtenus. Une revalorisation donc est en chemin, mais selon la CGT, hein, mais très très loin du compte. Et le 10 jusqu'au 12, donc la grève a démarré le 10, donc jusqu'au 12, et cela juste pour commencer. Alors, pas de bonne rubrique aussi de lutte sociale ici sur Idées Noires sans une ou plusieurs luttes des préposés de la Poste. La Poste, je dis préposés parce que j'en ai marre de dire postier, postière. Il y a encore, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, donc ici, là, c'est à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, avec trois bureaux qui vont fermer, qui vont tomber même en poussière, hein, c'est une image, mais elle est très juste, qui sont situés dans des quartiers à forte densité de population. Alors entendez par là, des quartiers populaires. Les postiers donc, et postières ont reçu le soutien des habitants et des habitantes. 2000 signatures sur pétition pour le maintien donc, de ces bureaux de poste. Quant à la mairie, ben, elle fait le botus et mouche cousue, hein, le fameux truc, voilà, la fameuse expression. La politique, ben, c'est de l'autruche, hein, à quand, je dirais, l'ouverture de la chasse, qu'on en finisse une fois pour toutes. Idem à Rennes, donc toujours pour la Poste, avec une grève des préposés, c'était le 9 janvier, puis le 12. Réorganisation évidemment des tournées du travail en question, le travail par lui-même, la suppression d'emplois, la précarité, les conditions de travail. Donc tout ça les y oblige à faire la grève. Là aussi, ils ont eu un encouragement chaleureux et un accueil aussi des usagers et des usagères. À Toul, c'est encore une fois en Meurthe-et-Moselle, avec 8 jours grévés pour 15 salariés du site de stockage de produits chimiques Brenntag. C'est pas compliqué, la vie, hein, pour les patrons. On change l'activité et hop, on supprime 15 postes. Et les bonhommes qui vont avec, donc au chômage pour eux, sans autre forme d'arrangement. C'est une phase de réorganisation au niveau national, hein, dixit la direction. Qui l'a dit, le patron, à un niveau donc très bas, hein, de réorganisation, car aucune info sérieuse n'est parvenue donc aux 15 et 20 personnes virées. La colère est immense sur la conduite de la direction qui se situe donc dans le Rhône, en fait. L'heure est à comment gagner plus, voilà. La direction, enfin, plutôt le directoire, je dirais, Brenntag, négocie à petit pas, donc qui dit à petit pas, petites indemnités. Les élus sur place sont sur les dents. La communauté de communes a investi 1,2 million dans l'affaire et a même retenu des terres agricoles, qui ont été mobilisées pour le développement de l'activité et la création d'emplois. La direction de mettre sur le dos en plus des contraintes administratives. Elle leur met sur le dos cet échec, l'échec d'un projet novateur et compétitif. C'est elle qui le dit. Hein. Ensuite, nous avons à Moreuil, dans la Somme, une société qui en a connu des conflits ces dernières années. Je veux citer la société Amcor Flexible Food, qui fait dans le packaging, c'est-à-dire les emballages. Alors, celui-ci, donc, risque d'être le dernier, hein, ce conflit, puisque 90% des grévistes, avec la CFTC comme moteur, pour contrer une fermeture totale en février. Négociation en cours, FO ensuite s'est joint évidemment à cette lutte. Grève sur d'autres sites en solidarité. 24 sites français, 200 dans le monde, c'est pas une petite boîte, mais tout ça, ça tient qu'à un fil, quoi, finalement, au bout du compte. À Savigny-le-Temple, maintenant, c'est en Seine-et-Marne, avec une centaine, enfin, selon les sources, c'était de 40 à 100 personnes, donc je dirais une centaine de personnes sur 365 de grévistes sur le site de la centrale d'achat de l'enseigne Leclerc. Cette centrale dessert les magasins en Île-de-France. C'est la SCADIF, en fait, qui est une société coopérative pour tous les Leclerc de l'Île-de-France. Alors, cette colère, c'est pour l'amélioration des revenus. Ils exigent 100 euros mensuels et une prime de 1300 euros, une prime exceptionnelle, et une prime d'ancienneté et des conditions de travail. Stop à une pression constante des chefs Fayon. Ici, c'est la CGT et la CFDT hein, qui soutient. Donc la prime d'intéressement a fondu comme neige au printemps. 500 euros pour 1600 auparavant. Le chiffre d'affaires donc, de la SCADIF est en hausse. Un point noir donc, qui n'est pas clair aussi, qui s'est mis sur le tableau, donc une ombre au tableau, bah, c'est que la SCADIF doit changer de logement pour intégrer une plateforme de 100 000 mètres carrés à Moissy-Sénart. Alors, motus évidemment encore de la direction sur le sujet. En 2016, la direction a été condamnée à verser 750 000 euros à 42 salariés pour rattrapage de salaire pour égalité de traitement après la loi des 35 heures de 2001. C'est-à-dire que les nouveaux embauchés étaient moins payés que les anciens malgré un accord qui avait été signé collectivement. Et puis pour terminer donc avec jouer les, vous avez autre chose dans les, non, avec jouer les tours, donc c'est en Indre-et-Loire hein. Et quand je dis jouer les tours, évidemment je la fais toujours, celle-là c'est pas une partie d'échecs, ben ça peut le devenir pour les salariés de Tupperware qui bataillent depuis l'annonce de la fermeture qu'ils ont pris en plein visage en 2017 pour mars 2018, donc pour bientôt 235 salariés. C'est la grève depuis ce début janvier pour obtenir des conditions de départ optimum, selon la CGT. Alors l'usine est stoppée, hein, la fabrication, la production est stoppée à cette date. Alors peser, évidemment, c'est le rôle de cette grève sur les négociations. Alors on travaille, ils profitent, hein, c'est pas un slogan, c'est des paroles donc de grévistes. Des conditions requises pour partir dignement, des primes supralégales et plans de reclassement, et garder évidemment ses yeux pour pleurer au bout du compte. Alors encore une parole de licenciés, ben pressés comme des citrons, jetés comme des Kleenex. Je dirais que des Kleenex de la marque Macron et des citrons pressés et mûris en Macronie. Voilà, ça me fait plaisir de dire ça.
Vous n'avez pas. On va enchaîner, on va faire un petit tour en Pologne. En Pologne, donc c'est surtout par rapport du coup à encore une régression des droits des femmes. Vous savez sûrement, mais en tout cas on va vous le rappeler, que depuis 1993, donc le droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, ben, n'existe plus en Pologne. Les femmes ne peuvent se faire avorter, pardon, qu'en cas de malformation du fœtus, de mise en danger de la vie de la mère, d'inceste ou de viol, et c'est tout. Et depuis son arrivée au pouvoir fin 2015, donc la droite ultra-conservatrice du PiS, droit et justice, avec l'appui de l'aile traditionnaliste de l'Église polonaise, bah, tente de durcir cette législation qui fait déjà partie des plus restrictives d'Europe. Vous vous rappelez souvent aussi, à l'automne 2016, donc, elle avait fini par reculer devant une mobilisation massive des femmes dans tout le pays. Mais elle récidive, comme on pouvait le craindre, hein, en ce début d'année avec un projet de loi qui interdirait l'avortement dans les cas de malformation de fœtus, ce qui représente 95% des IVG effectués légalement dans le pays. Donc voilà, il y a un petit entretien qui est sorti avec une philosophe et féministe pardon, polonaise, Agata Zwarnacka, qui est membre de l'association Sauvons les Femmes et donc qui prône, elle, forcément, une libéralisation de l'IVG en Pologne. Du coup, elle explique qu'en 2018, donc en ce début d'année, là, depuis janvier, il y a deux projets de loi du coup, qui sont concurrents sur l'avortement. Donc, elle explique qu'il y a d'un côté, donc, il y a le projet de loi sur lequel son association a donc travaillé, qui proposait l'ouverture du droit à l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. Mais pour faire la différence par rapport au projet de l'année dernière, qui avait été déjà rejeté, elles avaient ajouté d'autres notions, comme l'introduction de l'éducation sexuelle à l'école, par exemple, la lutte contre la propagande anti-IVG sur Internet, à proximité des écoles et des hôpitaux, le développement de l'accès à la contraception et sa prise en charge financière par les collectivités locales. Donc, malheureusement, ce texte a été rejeté en première lecture la semaine dernière par 202 voix contre 194. Et puis il y a un autre projet de loi, donc celui-ci conservateur, qui vient d'être envoyé en commission parlementaire et qui restreint la possibilité de se faire avorter au cas d'inceste ou de viol et de mise en danger de la vie de la mère. On ne sait pas encore quand il va être voté, donc elle pense que ce vote va être repoussé le plus tard possible car c'est un sujet en réalité très difficile pour le gouvernement. La base électorale du PiS dans les campagnes et les petites villes est en effet plus libérale que les cadres ultra-catholiques du parti. Voilà, on a même assisté à la même dérive en 2016 où l'Église a finalement appelé à ne pas se laisser emporter par le sujet. Elle parle aussi un peu de l'opposition du PiS qui malheureusement ne prend pas parti comme il le faudrait. Donc voilà, parce que cette querelle sur l'avortement Donc, les a fait rentrer dans un moment politique particulier, donc où l'opposition libérale a perdu une occasion de se mobiliser. Une trentaine de députés des deux partis de l'opposition, un qui s'appelle Plateforme Civique, le PO, et l'autre Novo Tchesna, qui s'appelle Moderne, étaient absents au moment du vote sur le projet de loi, comme par hasard, de libéralisation de l'avortement, ce qui aurait pu faire la différence. Et trois députés du PO ont même voté contre. Donc, ça montre bien pour elle combien les élus de ce parti sont en réalité conservateurs, bien peu souciés du droit des femmes et sans aucun lien avec les mouvements sociaux et incapables d'incarner des projets alternatifs. Voilà, ils sont d'un conformisme confondant, comme elle dit, mais ils ont surtout manqué de sérieux, ils ne se sont pas montrés à la hauteur de l'enjeu. Et bien le comble, c'est que l'opposition maintenant accuse à présent donc les féministes d'avoir causé cet affrontement, d'être des gauchistes exaspérés, déconnectés de la réalité. Donc voilà, donc on va suivre ce qui se passe du coup en Pologne de très 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 près. Vous vous souvenez sûrement qu'il y avait eu des mobilisations de solidarité avec les Polonaises quand elles s'étaient mobilisées en 2016. Et voilà, et s'il le faut, je pense qu'un peu partout en Europe, ça se mobilisera de nouveau. Voilà, en espérant que ce soit le cas aussi en masse dans leur pays. Voilà, normalement c'était, je crois, aujourd'hui les grosses manifs qu'il devait y avoir. Donc on va suivre ça de près. On vous dira la semaine prochaine sûrement comment ça s'est passé.
Voilà, et alors du coup, moi, je vais enchaîner avec la petite transition légèrement tardive.
Et ratée, bah oui.
Voilà, c'est par rapport à tout à l'heure. Alors du coup, je vais vous parler des violences policières, notamment d'un petit bilan qui a été fait par le site Bastamag. Donc du coup, d'après le bilan de ce site, 18 personnes ont été abattues par arme à feu et 16 sont mortes suite à une intervention des policiers ou des gendarmes. Donc ça fait 34 personnes en 2017 qui sont mortes en croisant les forces de l'ordre. Donc du coup, le journal Bastamag a effectué le décompte des personnes tuées par des policiers ou des gendarmes en 2017 et relève que la moitié des personnes abattues l'ont été par des policiers en dehors de leur service. Dans le cas des 9 autres personnes abattues lors de missions traditionnelles de maintien de l'ordre, 5 n'étaient pas armées, 3 étaient armées d'une arme blanche, couteau, et une avait ouvert le feu sur un policier le 26 septembre lors de l'expulsion d'un logement à Draguignan dans le Var. En plus de ces 18 personnes tuées par balle ou par flashball, 16 personnes sont mortes des suites d'une intervention policière. 3 sont décédés pendant leur garde à vue suite à un malaise. Un motard arrêté pour excès de vitesse meurt dans sa cellule, au commissariat d'Arpajon, dans l'Essonne, le 3 juillet. Un jeune homme de 16 ans, issu de la communauté des gens du voyage, décède pendant sa détention dans une gendarmerie en Charente, le 13 octobre. Un Espagnol d'origine sénégalaise de 24 ans meurt des suites d'une asphyxie, après avoir été interpellé à Paris le 22 novembre. La publication de ce décompte intervient alors que les juges en charge d'enquêter sur la mort de Rémi Fraisse, tué par un gendarme en octobre 2014, ont rendu une ordonnance de non-lieu. Pour la justice, ni le gendarme auteur du jet de grenade mortelle, ni sa hiérarchie n'ont commis de faute. Cela revient à donner un permis de tuer aux forces de l'ordre, a réagi la famille de Rémi Fraisse dans un communiqué. Dans un article de Mediapart réservé aux abonnés, les journalistes relèvent que les juges ont tout fait pour enterrer l'affaire. Pendant près de 3 ans, les avocats de la famille Fraisse ont demandé aux 2 juges d'instruction de remonter la chaîne des responsabilités. Mais les magistrates ont confié les investigations à des gendarmes qui ne bousculent pas trop leurs collègues et officiers supérieurs, ce qui peut se comprendre, alors qu'ils se montrent parfois désagréables, voire menaçants avec certains témoins. Sans surprise, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, donc l'IGGN, dédouane ces hommes qui n'auraient commis aucune faute pendant cette nuit de violence à Sivens, même si le tir en cloche d'une grenade offensive n'est pas réglementaire, donc illégal. Debout sur les freins, les juges toulousains refusent d'organiser une reconstitution sur les lieux du drame, puis d'entendre le préfet du Tarn. La partie civile avait sollicité l'audition de Thierry Gentilhomme, alors préfet du Tarn, ainsi que la transmission de ses communications écrites avec les gendarmes et l'exécutif national la nuit du 25 au 26 octobre 2014 en ciblant Beauvau, Matignon et l'Élysée. Cela aurait permis de retracer heure par heure, les ordres donnés cette nuit-là, dont les consignes de fermeté évoquées par un officier, ainsi que les informations dont disposaient les autorités avant et après la mort de Rémi Fraisse. Quant aux demandes d'actes sur la légalité de l'usage de grenades offensives ou le caractère privé des terrains de Sivens où les forces de l'ordre ont été déployées en masse, elles sont également rejetées, comme toutes les questions qui fâchent. Cette décision est exemplaire de l'impunité dont bénéficient les crimes policiers, comme le relevait le site Street Press dans une enquête sur les victimes de la police. En 10 ans, au moins 47 hommes désarmés sont décédés après avoir subi des violences des forces de l'ordre. Seules 3 affaires ont abouti à la condamnation d'un fonctionnaire. Jamais de prison ferme, uniquement du sursis. Donc, du coup, voilà, c'est un petit bilan. Alors là, par rapport aux 34 personnes au total, uniquement de l'année 2017. Donc du coup, après, dans la suite du bilan, quand on parle de Rémi Fraisse, vous voyez bien que ça s'étend quand même sur pas mal d'années. Et puis voilà, puis après du coup c'est celles qui ont été recensées, sûrement celles où il y a eu des plaintes même non classées suite à ces violences, mais bon, on décompte pas non plus toutes celles qui ont lieu tous les jours dans les quartiers où les policiers s'amusent à aller arrêter des gens n'importe où, n'importe quand. Moi, il y a quelques jours, un copain m'a raconté qu'un gamin de 14 ans avait été tabassé par la police dans un commissariat, qu'ils avaient coupé les caméras avant, enfin que des trucs comme ça.
Ouais, cet article, il revient pas uniquement sur les morts, mais sur ajouter tous les blessés. Et
voilà,
tous les,
voilà, c'est ça, toutes les violences, l'impunité du coup, des forces de l'ordre par rapport à toutes ces choses, toutes les affaires classées sans suite, vu que ce sont aussi les forces de l'ordre qui s'en occupent. Bah, du coup, forcément, quand ça les touche directement, c'est facile de couper court aux accusations, tout ça. Donc voilà, c'est quand même un vrai problème aujourd'hui, surtout quand on fait le bilan des morts, plus des violences. Donc voilà.
Eh ben, 21h, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Je rappelle juste les deux rendez-vous qu'on avait donnés en début d'émission. Deux rendez-vous qui suivent demain avec un rassemblement en solidarité avec les grévistes de l'hôtel Holiday Inn de la Porte de Clichy de Paris. Ça se passera de 17h à 19h devant l'hôtel Crown Plaza qui est au 22 quai Charles de Gaulle. Vous pouvez y aller en bus et les arrêts de bus C4 et C5, Cité Internationale. Et vous pourrez enchaîner à 19h30 à la MJC de Villeurbanne avec la projection débat de Demain l'usine, documentaire sur les Fralib et la Scopti, avec la présence de la réalisatrice et d'un des coopérateurs de la Scopti, justement. Donc voilà. Et si vous êtes du côté de Strasbourg ou si vous voulez voyager un peu pendant le week-end, on vous invite à aller à la manifestation antifasciste contre le local du Bastion Social. Voilà, ça se passe ce samedi sur Strasbourg. On vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur leur page. Ils ont une page aussi réseau social qui s'appelle Fermont l'Arcadia, local fasciste à Strasbourg. Allez-y jeter un coup d'œil. Donc voilà. Et puis autrement, on se dit à la semaine prochaine pour l'émission
tout
de radio.
Fait. Oui.
À la semaine prochaine. Bonne soirée.
Salut.